Ce lundi 14 juin, devant le Conseil régional des Hauts-de-France, se réunissaient à l'appel de la Fédération régionale CGT des cheminots et cheminotes, des agents et agentes, des usagers et usagères de la SNCF pour refuser l'ouverture du réseau ferroviaire régional à la concurrence. La dégradation de ce service qui est pourtant essentiel pose la question plus large de la libéralisation du service public, car l'entreprise publique historique est gravement mise à mal par ce projet de mise en concurrence, qui a été déjà refusé par plusieurs régions.
La privatisation menace le droit au transport ferroviaire. L'objectif de rentabilité comme seule motivation est contraire à l'objectif de service public. Voici quelles pourraient en être les conséquences. Hausse des prix, réduction du personnel, des trains ralentis faute de maintenance, des lignes peu rentables délaissées voire supprimées. Report du ferroviaire au routier, donc création de plus d'accidents et plus de pollution. Bonjour monsieur, on se rencontre ici devant le Conseil régional à l'occasion du rassemblement CGT Cheminots pour défendre, plutôt pour lutter contre l'ouverture à la concurrence du rail. Vous, en quoi est-ce que ça impacterait votre travail et le service SNCF de manière générale ?
L'impact du travail et du service SNCF en général, c'est aussi l'impact, comme on le dit, pour le client, pour la concurrence. À savoir qu'il faut déjà remettre à niveau la SNCF avec toute la casse qu'il y a eu au niveau matériel et humain et afin de rendre un service de qualité pour le client, car il faut savoir la première chose, c'est des trains qui arrivent à l'heure, des trains où tout le monde peut s'asseoir. Parce que des trains surchargés, surbondés, c'est pas normal. Le client paye pour une qualité de prestation. Et là, nous, on en est fortement conscients et il faut qu'on sauvegarde notre entreprise et le matériel et les moyens mis à disposition.
Est-ce que quand les toilettes sont fermées dans un train, c'est parce qu'il n'y a que le chef de train et pas forcément quelqu'un pour pouvoir surveiller Je me suis posé ça comme question en tant qu'usagère, tout bêtement.
Non, quand les toilettes sont fermées, c'est qu'il y a un problème de matériel. Soit aux toilettes bouchées, de l'eau, mais faut savoir que le train, même avec, sans toilettes, peut circuler. Nous, en tant que contrôleurs, si les toilettes sont fermées, c'est qu'il y a un problème de matériel sur le toilette. Ça peut être de l'eau, ça peut être un problème électrique, toilettes bouchées, mais en aucun cas le train ne part pas si les toilettes ne sont pas accessibles. C'est-à-dire que les trains circulent sans toilettes. Ça n'empêche pas.
Pour une autre question, c'est plutôt par rapport à la qualité de travail d'un cheminot, d'un contrôleur de train ou d'un chef de train, si c'est ouvert à la concurrence et qu'il y a des entreprises privées qui sont aussi sur le rail. Comment ça va se passer, la communication? Comment vous pourrez collectivement vous organiser pour que le service soit rendu et que vous ne y perdiez pas trop au niveau du salaire, parce que j'imagine que des entreprises privées qui vont ouvrir, ce ne sera pas les mêmes statuts du tout que la SNCF, même si vous avez déjà perdu beaucoup avec la réforme de 2018 aussi en termes de statut.
La seule chose qu'on peut le voir, c'est de tirer les salaires vers le haut, que les gens aient conscience qu'ils refusent, alors c'est pas facile, mais il faut être droit avec ses idées, qu'ils refusent un salaire à 1 000 euros et en disant non, ça vaut autant ou autant, et qu'on soit tiré vers le haut, et qu'on s'unisse comme aujourd'hui pour aller vers le haut et non pas vers le bas. Ça, il ne faut pas l'oublier, de l'argent, il y en a, il faut bien le redistribuer. Et voilà, donc aujourd'hui, c'est plus facile de dire tu feras moins et tu te tais que de dire non, je ne suis pas d'accord et je me mobilise. Je n'ai pas dit je me syndicalise. D'abord, on se mobilise. Syndicaliser, c'est autre chose, c'est une autre marche à franchir. Mais d'abord, la mobilisation aussi bien des salariés et aussi des usagers. Car ce qu'on fait là aujourd'hui, ce n'est pas que pour notre entreprise, c'est aussi, je le répète, pour les usagers du train. On est bien d'accord?
Et même de manière plus large, pour éviter les accidents de la route, s'il y a plus de transports routiers, s'il y a moins de trains, on augmente le nombre d'accidents de la route, finalement.
Alors concernant les usagers du train et les accidents de la route, il faut quand même revoir une politique, la politique de la ville, de toutes les villes. Je prends Béthune, je prends Lens, je prends Arras, où il est impossible ou très de se garer proche d'une gare, enfin c'est très très difficile. Donc oui pour le train, mais oui aussi pour les places de parking et les accès aux gares, parce qu'il y a ce qu'on appelle le dernier kilomètre entre la gare et la maison ou entre la gare et le lieu de travail pour faciliter le train. Donc voilà, aujourd'hui oui au train, mais on ne peut pas tous aller en train à la gare à pied ou à vélo, il nous faut un moyen de mobilité, surtout quand on est à la campagne. Donc il faut aussi privilégier les parkings gratuits, je vous dis bien les parkings gratuits et sécurisés autour des gares pour que l'usager puisse prendre le train.
D'accord, bah je vous remercie. Je me posais aussi une question sur les différences entre les TGV et les TER. Oui, mais du point de vue de l'organisation, est-ce qu'il y a une différence, même pour votre mission ?
Les TER, c'est la région qui paye les TER, le matériel, tandis que le TGV, c'est national. Ils ont différencié SNCF Voyage, qui est le TGV, et SNCF, tout ce qui est régionalisé par le TER. Le TER, c'est les régions qui financent le TER.
Si on veut, c'est deux entités différentes, deux lieux de maintenance bien différents. Hein, les ateliers qui sont destinés à la maintenance du TER et des ateliers qui sont destinés à la maintenance des TGV. Un TER ne roule pas sur ligne TGV, mais un TGV, lui, peut rouler en vitesse réduite sur ligne TER. De toute façon, on le voit bien avec les connexions pour entrer en gare de Lille. Mais c'est deux services bien distincts au sein de la SNCF.
D'accord. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a un mot que vous voudriez ajouter ?
Tous ensemble ?
Prenez le train.
Bonjour, on se rencontre devant le Conseil régional à l'occasion de ce rassemblement pour éviter l'ouverture à la concurrence de la SNCF. Vous, vous êtes cheminote ? Vous êtes conductrice de train ?
Non, moi je suis contrôleuse de train et je suis donc basée à Aulnoy-Aymeri.
D'accord. Et alors, du point de vue de votre travail, est-ce que l'évolution du statut en 2018 de la SNCF vers une société anonyme a beaucoup changé votre boulot ? Et là, qu'est-ce que ça risque de faire ? Quelles sont les principales raisons de votre mobilisation ?
Alors déjà, suite à la fin du statut, on voit des nouveaux embauchés. C'est un peu la jungle dans les contrats. Ils n'ont plus forcément les mêmes garanties sociales que nous qui sommes au statut. Et puis, au niveau des salaires, c'est la jungle. La grille des salaires explose. Et en fait, on n'a plus aucun repère. Quoi. C'est vraiment... Alors on dit, les nouveaux embauchés peuvent négocier leur salaire. Mais quand on est contrôleur de train, on n'a pas la possibilité de négocier son salaire. Hein. On n'est pas avocat, on n'est pas médecin. Voilà. Les évolutions, ce que ça peut changer, c'est en fait que là, on va... être transférés parce que aujourd'hui, en fin de compte, les sociétés qui répondent aux appels d'offres, bah, même si c'est Transdev ou alors si c'est TER qui gagne le contrat, ce sera de toute façon par une filiale. Et qui dit filiale, bah, dit transfert en fait. Et donc, bah, toutes nos garanties sociales qui sont liées à notre statut disparaissent, notre réglementation du travail va disparaître et c'est pour niveler vers le bas. Et en fait, donc il y aura énormément d'impact tant sur nos conditions sociales, sur notre réglementation du travail. Donc c'est simple, hein, au bout de combien de temps on peut aller travailler, combien de temps quand on fait un découché on peut être pris, etc. Et puis ça va aussi avoir un impact sur les conditions de travail plus directes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a déjà de plus en plus de cadencements, donc on a une augmentation des cadences dans le travail, d'année en année. Moi, ça fait 21 ans que je fais ce travail et je vois vraiment beaucoup, beaucoup de différences. Et des fois, on n'a même plus le temps d'aller pisser, quoi. On n'a plus le temps d'aller aux toilettes. Et en fait, ça va s'accélérer puisque la concurrence a déjà annoncé que ses marges de manœuvre pour gagner de l'argent, puisque le but est bien de gagner de l'argent, ce serait d'augmenter encore les cadences, ce serait de mettre de la polyvalence, en fait, de plus en plus dans les métiers. Et puis, en fait, on serait bon à tout et bon à rien, quoi. Je veux dire, voilà. Tout à fait.
Et votre point d'indice est gelé depuis 7 ans ?
Oui, tout à fait. Notre point d'indice est gelé depuis 7 ans. Nous n'avons pas eu d'augmentation depuis 7 ans et ça devient très, très problématique. Alors, il y a bien eu la mise en place de primes à l'intéressement, mais qui restent fluctuantes suivant l'état financier de l'entreprise. Et là, on voit c'est assez catastrophique. Et nous, ce qu'on veut, c'est des augmentations de salaire pérennes qui comptent pour la retraite et pas des primes comme ça au bon vouloir de notre direction. Voilà.
C'est vrai qu'on a l'impression qu'avec une ouverture à la concurrence, du coup, des contrôleurs ou chefs de train engagés dans le privé auraient donc un statut différent, un salaire différent et ne s'organiseraient pas forcément avec vous pour améliorer la qualité du service. Et la mise en concurrence est celle de salariés aussi ? Alors, dans le même métier ?
Ouais, alors ce serait... la problématique de l'ouverture à la concurrence, c'est aussi le coût. Hein, c'est qu'au final, on annonce que les budgets qui sont mis en avant par le Conseil régional, finalement, sont plus importants lors de l'ouverture à la concurrence qu'aujourd'hui, l'argent qui est mis pour le transport ferroviaire sur la région. Donc déjà, c'est quand même assez... c'est pas honnête. Et puis, il y a de toute façon les lignes, les lots qui sont ouverts à la concurrence aujourd'hui, on les connaît sur le versant sud. Et puis nous, on a le Paris-Maubeuge qui a été annoncé, donc Aulnoy, ça va nous concerner très vite. C'est que finalement, ce sont comme c'est des différentes compagnies qui risquent d'arriver, on va avoir un fonctionnement en vase clos. Pour les usagers, ça risque d'être catastrophique. On sait qu'aujourd'hui, le service, il n'est pas top. On pourrait faire beaucoup mieux. Mais ça, c'est l'organisation qui est mise en place. Et les cheminots aimeraient pouvoir faire beaucoup mieux, vraiment. Et là, en fait, on nous annonce, par exemple, que la ligne, l'ouverture pour Saint-Paul, pour prendre cet exemple-là, qui vient d'être faite complètement, d'ailleurs. Hein, ce n'est pas un hold-up, ça. Je ne sais pas ce que c'est. Et en fait, ça fonctionnerait en vase clos. C'est-à-dire que pour les usagers, s'ils restent dans le vase clos, ça va, mais s'ils sortent, il n'y aura plus de correspondance. C'est déjà compliqué aujourd'hui, mais là, ça ne va pas s'améliorer. Voilà. Et puis, les salariés qui sont mis comme ça, la polyvalence comme ça, à tout prix, y a un moment où ça craque, ça ne passe plus. Hein. Puis on n'est plus expert de son métier. On n'est plus expert. Donc forcément, le service, il décline. Voilà.
Quand vous parlez des travaux sur la ligne Saint-Paul, ça a été payé par le conseil régional et la SNCF ?
Bien sûr, ça a été, oui, tout à fait. Puis il y a aussi un paiement de l'État. Enfin, c'est bien l'argent public qui a payé tout ça. C'est un peu comme les autoroutes au final. Hein. Voilà, on est en train de refiler du matériel, des lignes qui sont neuves. Ça a été refait complètement à neuf. Tant mieux pour les usagers, mais là, par rapport à l'argent public, c'est quand même problématique. On a aussi le matériel. Le matériel, il est financé, donc les rames. Elles sont financées par le conseil régional. Aujourd'hui, on sait que M. Bertrand et M. Dersin, enfin en tout cas le conseil régional, a demandé en fait à rebasculer les rames neuves du versant nord vers le versant sud qui va être ouvert à la concurrence. Enfin, qu'ils veulent ouvrir à la concurrence. Vous voyez, enfin, c'est quand même... Alors, c'est tout, maintenant on est une grande région. Mais quand même, il y a une spoliation quelque part. Voilà.
Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez ajouter ?
Oui, je voudrais ajouter d'abord que je vous remercie de m'avoir posé des questions et puis qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. On a encore des possibilités. Malheureusement, les cheminots aujourd'hui sont devant un mur. C'est le mur politique. On a tout fait pour prouver que c'était catastrophique et puis que c'était une spoliation, vraiment, que c'était un hold-up envers les usagers, en fait, qui parfois nous en veulent, effectivement, pour un service qui n'est plus de qualité. Mais ce n'est pas la bonne voie. C'est pas la bonne voie pour un service de qualité que de passer à la concurrence.
Voilà. Il y a eu des problèmes d'agression de contrôleurs, par exemple. Vous n'êtes pas suffisamment nombreux, peut-être. C'est les risques du métier. C'est un métier dangereux aussi. On n'a pas abordé cette question.
C'est pas les risques du métier. Il n'y a pas un contrôleur qui va au travail avec une prime de risque pour se faire taper. Et même, c'est pas une prime de risque qu'on veut. Nous, on veut qu'il y ait un service de qualité. Après, il y a les impondérables. Il y a des fois, on représente effectivement, on a l'uniforme. Mais quand même, on voit qu'il y a une augmentation des agressions qui est certainement liée à une dégradation du service aussi. Voilà. Et ça, c'est juste pas entendable. On comprend qu'il y ait de la tension du côté des usagers. Nous, ce qu'on demande, c'est justement qu'on ait plus d'effectifs parce qu'aujourd'hui, on est en sous-effectif chronique, mais dans quasiment tous les métiers. Donc ça crée des tensions, ça fait que nous, on est obligés de... On n'est plus dans nos roulements, on est fatigués. On est fatigué et les gens sont excédés en face avec tous les problèmes qu'il y a. Ça, on peut l'entendre, mais l'agression, on ne l'entendra pas. Non. Voilà. Mais effectivement, en fait, on a des sous-effectifs. Mais pourquoi ? Parce que, en fait, nos dirigeants, ils nous disent il y a l'ouverture à la concurrence, donc il faut qu'on soit compétitif. Donc être compétitif, c'est plus embaucher comme il faudrait. C'est plein de choses comme ça. Ils sont en train de racler dans les caisses. Et la qualité de service, elle s'en ressent aussi. Et puis les cheminots, ils sentent bien passer, ouais, effectivement. Voilà, mais encore une fois, on se battra jusqu'au bout. Et puis nous, notre but, c'est déjà de revenir sur ce dogmatisme-là d'ouverture à la concurrence, parce que tout prouve que ce n'est pas une bonne idée, et pour les cheminots, et pour les usagers. Et je pense il n'est jamais trop tard pour bien faire. Malheureusement, si ça passe, il faudra peut-être 20 ans, 30 ans, pour qu'on se rende compte comme au Royaume-Uni. Qui est en train de tout doucement faire marche arrière. Voilà.
La mise en concurrence en Angleterre a engendré un service plus cher et plus médiocre pour l'usager. 60% des Anglais ont demandé la renationalisation.
L'ouverture du ferroviaire à la concurrence d'entreprises privées risque de multiplier le nombre d'offres proposées aux usagers, ce qui conduit également à une possibilité de confusion et de mauvaise organisation, mauvaise communication entre les différents services ferroviaires.
Comment on peut demander à un usager d'utiliser la SNCF de Boulogne à Amiens, et puis d'utiliser Régionéo de Amiens à Paris, puis alors s'il doit aller après dans une autre région, reprendre un billet SNCF ? s'il y a une rupture de correspondance, tout ça, comment on va pouvoir justifier ça auprès des usagers. Je pense aux collègues des guichets qui doivent, eux, vendre des billets. Alors, il va y avoir une carte bleue, ce sera une entreprise, l'autre carte bleue, ce sera une autre. Enfin, les gens ont besoin d'un contact humain et on est en train de le déserter dans toutes les gares, dans tous les transports, que ce soit même dans le TER. On va essayer de faire baisser les coûts pour être de plus en plus attractif. Mais baisser les coûts, il va falloir le répercuter sur l'humain derrière, et ce soit peut-être dans les conditions de travail ou même dans la quantité d'agents présents sur le terrain. Je pense qu'on est déjà arrivé à un seuil très très bas, et que si on continue comme ça, ben, au niveau des responsabilités, des sécurités. Comment on peut justifier un train sans agent d'accompagnement en cas de problème pour un usager? Qui est responsable pour lui? Moi, c'est la question que je me pose. En banlieue parisienne, il y a des trains qui se roulent sans agent d'accompagnement, mais il y a des gares tous les 600 mètres. C'est pas le cas dans la région. Hein. Donc, comment assurer la sécurité des gens, que ce soit pour une maladie, une agression, s'il n'y a pas d'agent ni dans les gares, ni dans les trains? Et le conducteur livré à lui-même en cas d'anomalie, c'est ingérable et on y vient. Hein. Et c'est dangereux.
Et puis, ça diminue votre possibilité de vous organiser collectivement pour les conditions de travail aussi des agents?
Je pense qu'aujourd'hui, on n'est même plus dans la recherche d'un gain au niveau conditions de travail. On essaye simplement de sauver les meubles. Parce que tous les jours, c'est dégradé en interne, dans les roulements, dans les travails, dans les grilles. Tout est dégradé. On est tout le temps en train de tirer sur la corde. On est de plus en plus souvent livré à de la réserve, des choses. Et demain, on est loin de là d'essayer de réclamer des choses pour l'amélioration. On essaye simplement de préserver les conditions de travail dignes, en fait.
Parce que ces agents qui travailleront pour des entreprises privées accepteront des conditions autres que celles qui sont proposées à la SNCF. Et cette mise en concurrence, en fait, elle va diminuer la qualité du travail de tout le monde, en fait, du service pour les usagers, mais aussi du travail de ces agents privés.
On sait bien que la concurrence, elle ne va pas niveler les conditions de travail vers le haut. Ça va forcément les tirer vers le bas. On va essayer de faire plus d'heures avec un agent et... Mais le problème, c'est quand on est en tête d'un train, on a déjà une réglementation qui est assez large. Et quand on l'exploite, c'est quand même pas rien. Entre les RHR, les journées à coupure, les grandes amplitudes. Je pense que si on continue dans ce sens-là, on va avoir de plus en plus de mal à assurer une carrière complète. Hein. Moi, je vois, avant la retraite, elle était à 50 ans. Aujourd'hui, elle était à 62. On en parle de plus en plus tard. Mais comment on peut justifier de se lever à 2h du matin tous les jours pour aller assurer des TER seuls à 62 ans? C'est inconcevable. Mais comme d'autres métiers, hein, je ne parle pas uniquement pour mon métier. C'est que les conditions de travail qui se dégradent, ça n'arrangera rien avec le fait qu'on soit de plus en plus vieux au travail.
Alors j'ai une question qui est peut-être prosaïque, hein, parce que je suis usagère SNCF, mais je ne sais pas comment ça fonctionne d'être chef de train, etc. Comment ça peut ne pas être dangereux au niveau de la communication entre les différentes entreprises qui sont sur le rail pour le passage des trains, pour les gares de triage, etc.
C'est déjà compliqué dans la même entreprise d'avoir une communication qui est réactive et souvent à échelle du risque. Donc, j'imagine même pas, ayant plusieurs interlocuteurs dans d'entreprises différentes, comment chaque personne va savoir expliquer une situation complexe ou dégradée à quelqu'un qui est censé gérer un réseau. J'ai du mal à croire que ça va bien se passer. Et je pense que les gens qui prennent les décisions feraient peut-être bien d'aller voir déjà comment ça se passe dans un poste, dans un train, et puis aussi pour les usagers, avant de venir mettre un schmilblick comme celui-là.
Les agents et agentes de la SNCF qui étaient présents ce jour ne luttaient pas seulement pour leurs conditions de travail, mais également pour les usagers. Ils les invitent toutes et tous à rejoindre leur combat.